Bonsoir à tous, monsieur l'ancien secrétaire d'État, madame la professeure, monsieur le recteur de l'Université de Genève, monsieur l'ancien recteur, chers et chers collègues, chères étudiantes, mesdames et messieurs. Il semble impossible ces derniers jours d'échapper aux informations dans les médias concernant les mauvais traitements infligés dans de nombreux pays aux enfants en situation de migration. Un rapport des Nations Unies, publié aujourd'hui, précise ainsi que plus de 300 000 enfants en situation de migration dans le monde sont privés de leur liberté. Il précise aussi que les États-Unis, avec plus de 100 000 enfants placés en détention, est de loin le pays avec le plus fort taux de détention. La publication de ce rapport coïncide avec le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui reconnaît les enfants comme des êtres humains, à part entière, disposant de droits intangibles. Le coup de projecteur donné actuellement par les médias sur les droits des enfants est absolument nécessaire pour rappeler ces droits et les principes selon lesquels les enfants doivent être traités avec dignité et respect et protégés contre toute violence et discrimination où qu'ils vivent, quelle que soit leur origine ethnique ou sociale, leur fortune, leur handicap ou leur lieu de naissance. Ce coup de projecteur ne doit pas faire oublier cependant que la situation actuelle non seulement n'est pas complètement nouvelle, mais encore et surtout qu'elle apporte une réponse, ou qu'elle appelle une réponse durable, à la hauteur des enjeux actuels, mais surtout à venir, en matière de migration. Nous disposons aujourd'hui d'un cadre légal international qui s'impose dans tous les États du monde. Pour ce qui est de la Convention sur les droits de l'enfant, les États-Unis font exception. Ce cadre est très complet avec l'existence de standards très précis applicables à la protection des enfants et qui prévoit aussi l'intervention d'institutions qui vont être chargées de contrôler le respect de ces standards par les États. Cependant, il nous faut bien constater que de très nombreux défis restent à relever en vue de protéger les enfants défavorisés et vulnérables et favoriser leur développement. Pour discuter de ce sujet ce soir et pour aborder plus précisément le thème des enfants migrants et de leur santé, nous avons le privilège de recevoir deux experts internationalement reconnus, deux experts des questions à la fois de migration et de santé. Nous allons entendre tout d'abord la professeure Jacqueline Baba, que je vais présenter tout de suite, et puis nous entendrons ensuite le docteur Xavier Emmanuelli. Professeur Baba, it's an honor for me to welcome you tonight. Jacqueline Baba is professor of the practice of health and human rights at the Harvard School of Public Health. She is also director of research at the Harvard's François Xavier Bagnou Center for Health and Human Rights, and she is a lecturer in law at the Harvard Law School and in public policy at the Harvard Kennedy School. She was formerly the director of the Human Rights Program at the University of Chicago, and prior to that, she was a practicing lawyer in London and at the European Court of Human Rights in Strasbourg. She is an internationally recognized expert in human rights and migration and refugee issues. She has published extensively on these subjects, as well as on children migration and children rights and citizenship. She has an extensive knowledge of diverse legal systems, and that makes her research even more convincing and fascinating. Finally, she's extremely engaged and she serves on the board of the Scholars at Risk Network, the World Peace Foundation, and the Journal of Refugee Studies. She has recently published a book on the migration crisis called Can We Solve the Migration Crisis?, where she confronts herself as a practitioner and as a scholar with the same question that the ones that are at the center of the book published around the same time by our second speaker. Our second speaker, Monsieur le Dr. Xavier Emmanuelli, On ne présente plus en France parce qu'il fait partie des personnalités les plus appréciées des Français. Hein. Plusieurs termes caractérisent la carrière de Xavier Emmanuelli, hein. L'urgence, la pratique médicale, l'action sociale, la lutte contre l'exclusion, l'engagement humanitaire encore et toujours. Pendant plus de 50 ans, Xavier Emmanuelli a allié à sa façon la pratique médicale et l'action sociale. Médecin urgentiste, il a participé à la mise en place du SAMU dans les années 70, et le SAMU est en France le centre de régulation médicale des urgences. Il a aussi participé à la création de l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières, qu'on ne présente plus. Il a aussi été médecin-chef de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis de 1987 à 1993, année au cours de laquelle il a créé le SAMU social de Paris, qui est une structure tout à fait particulière d'aide d'urgence aux sans-abri. Son engagement le conduira à démissionner du SAMU social en 2011 pour protester contre l'affaiblissement des ressources attribuées par l'État à cette structure. En 1995, il a été nommé secrétaire d'État chargé de l'action humanitaire d'urgence. Et en 1998, il a créé le SAMU social international, qu'il préside toujours et dont l'objectif est le soutien et la coordination des services d'urgence sociale dans d'autres pays. Son engagement passe aussi par la publication d'ouvrages dans lesquels il réfléchit plus encore sur la migration, l'exclusion, l'action humanitaire, la pauvreté, les enfants des rues et toujours l'urgence médicale et humanitaire. Vous pourrez me corriger si j'ai fait des erreurs. Je vais donner tout de suite la parole à Jacqueline Baba qui fera une intervention de 20 minutes et puis ensuite nous écouterons Xavier Emmanuelli. Professeur Baba, you have the floor.
Good evening. It's a great pleasure and an honour to be here. Thank you very much for this invitation. Thank you to the Brochet Foundation and to the University of Geneva and to the City of Geneva. It's really an honour to participate in this momentous occasion in the city which is so significant for treaty making, for building international agreement and for giving protection to people who need it, including refugees. Today's topic of discussion, protection of the health and the human rights of migrant children, could not be more urgent. I would suggest there are two reasons for this urgency. Firstly, the high volume of vulnerable international migrants, over 30 million of whom are children, forced into distressed migration with all the health risks that this brings. People who see international movement as their only or their best survival option in the face of deteriorating prospects at home. And second, escalating xenophobia, often validating discriminatory conduct by states, conduct that is driving increasingly inhumane, rights-violating policies which have dramatic consequences for the life and the health of migrants and migrant children in particular. And to these two precipitating causes, I think we have to add two other general considerations. The first is the increase in global inequality, which magnifies the differences between quality of life in different social settings. Nowhere is this inequality more apparent than at borders, particularly borders that separate some of the richest countries in the world from some of the poorest and most dangerous. And secondly, environmental harm, accelerating environmental harm that aggravates living conditions, particularly for impoverished and disadvantaged communities. Decreases in agricultural resources, water scarcity, increases in extreme weather incidents, and decreasing ability to impinge on these, which lead, of course, to desertification, hurricanes, violent storms, flooding. all these consequences of climate change, of course, don't distribute themselves equally across populations. They affect most particularly those who are poor and who are already vulnerable. And the southern border between Mexico and the United States exemplifies all these issues, and that's what I'm really going to talk about, focusing my comments on the United States, because I know my colleague is an expert on the European situation. But before I spend a few moments discussing United States migration policies and their impact on the health of migrant children, I would like to take the liberty of setting the human rights context in which we are meeting, which has already been referred to, the 30th anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Anniversaries are always two-faced. They mark the passage of time and invite stock-taking about the past, but they also provide an opportunity to look forward and to consider what milestones remain unaccomplished, what urgent tasks beckon. The United Nations Convention on the Rights of the Child, which we often refer to just as the CRC, was adopted by the UN General Assembly exactly 30 years ago, in November of 1989. And a quick glance at its provenance reveals a Polish nationality of origin. The convention was first conceived of by a Polish jurist who was inspired by the visionary child rights work of a Polish doctor, Janusz Korczak. Korczak, in some ways, is rightly, I think, considered the father of children's rights. A psychologist and a medical practitioner in Nazi-occupied Poland, he heroically stood by the 200-odd Jewish children in the orphanage that he founded in the Warsaw Ghetto. This was not an ordinary orphanage. It was run way before its time on child's rights principles. It had its own parliament managed by children, its own court, its own newspaper. In other words, it incorporated into its governance many of the key political and ethical issues that the Convention on the Rights of the Child, many years later, tried to propagate. Korczak was widely celebrated for his innovatory work, and many constituencies mobilized to save his life as Nazi extermination proceeded. But he stood fast in his orphanage home, eventually refusing safe passage to Israel or even to the Aryan part of Warsaw to stay with the children, and of course eventually accompanying them to Treblinka, where they all died. So the inspiration for the CRC comes from his approach to children, an approach founded on a dual imperative, the obligation to protect the best interests of the child, of all children, as was just stated, without discrimination, and at the same time, the obligation to recognize their agency, their decision-making capacity, their growing ability to develop and operationalize a sense of justice themselves. The early years of the CRC were momentous. It was, and it remains, the most widely and rapidly ratified international treaty in the world. In fact, it came into force less than a year after it was adopted, and anyone who knows anything about international law can tell you that that is remarkably fast. And it is today the only treaty that has been ratified by every single member state of the United Nations, with one exception, the United States. This success in ratification is particularly remarkable given that the CRC has an enormous scope. For the first time ever in a human rights treaty, it covers both civil and political rights, such as the right to freedom from discrimination and the prohibition on torture, but also economic, social, and cultural rights, such as the right to the highest attainable standard of health and a prohibition on exploitation. So it is not a surprise that at its outset, UNICEF, the UN agency responsible for children, was skeptical. How could such an enormous mandate
way beyond UNICEF's core focus be enforced. And of course, near comprehensive ratification always brings with it a cost. Pragmatism, rather than universal consensus, dictated the framing of many articles. And so, if you look to the CRC, you will not find, for example, a definition of when life starts. You will not find a prohibition on corporal punishment. You will not find a definition of the minimum age for marriage or the minimum age for child labor. On all these points, the CRC is silent. It abstains because there was not sufficient agreement. And the idea was to have as broad a tent as possible. And it did build that broad tent. So before I talk about migration, let me just tell you three very important things that the CRC succeeded in establishing. First of all, it built a uniform definition of a child, a person under 18, unless national law recognizes an earlier age of maturity. This in itself is a huge achievement. 18 is when you stop being a child, not 10, not 14, not even 16. Second, the convention concretized the principle of the best interests of the child as a primary consideration for officials whose actions impinge on children. This is a radical change of the previous attitude, which was that only parents and not governments were responsible for children in their jurisdictions. And this principle continues to have radical implications, including for migrant children. They are the responsibility of the state that they are in, whether they are documented or not, whether they have citizenship or not. Their best interests are a concern of government officials. And third, the convention articulated the novel insight that children were rights bearers in their own right, not family possessions, that their views mattered. So all these principles have really dramatically changed the way we think about children today. And when I say we, I do mean a global community, governments, administrators, in many different departments, in many different countries. But as I already said, the United States has not ratified the Convention on the Rights of the Child, and as a result, it is not subject to the scrutiny of the Committee on the Rights of the Child, nor is it subject to the careful and probing censure of other treaty signatories. It's hard, I think, to lay the dramatic child protection failures that we see in the United States at the door simply of non-ratification of their treaty. There are many reasons for those. But I think it is noteworthy that some of the egregious violations of migrant children's rights that I'm about to describe have not produced sufficient international outrage. Maybe because the United States is not seen as part of the international community of nations that has signed the convention. So let me just mention a couple of the dramatic issues in the situation of migrant children in the US and at the southern border that affect child migrants' health. First, and this was already mentioned, over just the last year, the United States has detained more unaccompanied children trying to cross into the US than it ever has before. 76,000 between September 2018 and September 2019. And in the same period, under severe pressure from the US, Mexico too has been forced to detain children because Mexico is now the buffer state for the US, just like outlying parts of Europe have become buffer states for Europe. So Mexico has detained over 40,000 children. And so, as was just stated, over 100,000 unaccompanied children are detained at the US southern border on either side. And detention, as we know, is a serious health hazard. Not only does it separate children from their families, it exposes them to the risk of abuse, to bullying, to depression and suicidal thoughts. And it may result in irreversible toxic stress, and perhaps we'll discuss this more. From the start of his presidency, Donald Trump has changed the prevailing official discourse on immigration. the first American head of state to cast immigration primarily as a threat to national security and prosperity, rather than as a cornerstone of American identity, which is the usual narrative. And I'm sure many of you who've been to the US will be familiar with this narrative of being a nation of immigrants. That is not the climate at the moment. Border security, in particular at the southwestern border between the US and Mexico, has been a constant feature of the administration, most memorably, unfortunately, captured by the president's stereotyping of Mexicans as predatory criminals, and by his insistence on the need for a continuous, unscalable wall across the approximately 2,000-mile border. And a central target of the government's securitization has been the family migration of destitute, distressed Central Americans fleeing extreme violence and lawlessness in their countries of origin. So let me turn briefly to these families and to their children. While crossing the border between Mexico and the US has long been a phenomenon of quite significant intensity, the nature of this phenomenon has changed recently. We no longer see overwhelmingly Mexican single men. What we see instead is Central American families, families with children, families with young children. And we see these in large numbers. Why has this change happened? Because the pull of labor migration has given way to a push of extreme danger from the countries of the so-called Northern Triangle. So migrant children in Central America are facing extreme risks to their health. They're facing violence on a daily basis. They're living in some of the murder capitals of the world. They face gangs, they face drug wars, and they face failing states where their basic health needs are poorly met. Add to this climate change and the large-scale rural to urban migration, because agricultural failure has pushed this, and you see why such large numbers of very poor people are forced to leave home. So the result has been an experience of overwhelming pressure to migrate, migration often seen as the only survival option. Now, the response has been rather disastrous, and we are seeing situations which really are concerning. And I would like to just describe to you some of the specific consequences. You may have heard of them. One is, of course, the so-called zero tolerance policy initiated by the US government in May 2018, which criminalized all undocumented entry, even of asylum seekers, something unheard of in international law. The policy instructed border officials to prosecute all migrants who were crossing the border without prior authorization, including people fleeing persecution. This zero tolerance policy was implemented by Border Patrol officials who arrested and detained all unauthorized adult entrants starting in May 2018, charging them with an offense of unlawful entry. And of course, large numbers of these entrants were accompanied by children. And because children under US law could not be detained at length in severe detention facilities where their parents were being sent, they were separated. And that's how we came to have the so-called family separation policy. This family separation policy was introduced without adequate preparation and without care. And you may have noticed, you may have read about the really criminal negligence that led to situations of complete lack of contact between parents and children. As one of the judges said, we take more care of property than we do of children these days. Parents lost touch with their children. Parents had no idea where their children were. Babies were handed over to be cared for by unrelated, separated migrant children as young as 6 or 7. You had 7-year-olds looking after babies not related to them. You had no record keeping. You had instances of willful official abuse and maltreatment. I won't go into them. And only after dogged litigation, and here the courts have really been the resource of last resistance, was the policy abandoned. But the policy still continues in many ways. Though children are no longer separated from their parents, if they travel with other relatives, or if the parents have criminal convictions, but even criminal convictions like unpaid driving tickets, children are separated from their parents. And so we still have over 5,000 children separated from their families. So this is really a serious health hazard. It's actually a health emergency, I would say. And I'd like to read to you very briefly the testimony given by an expert to the US House of Representatives in July of this year. She was talking about, she's somebody who's worked in this field for over 25 years. And she talked about her visit to some of the detention facilities in the southern US. And she said, in June 2019, a small team of lawyers, a doctor, and I met with nearly 70 immigrant children detained in Texas. The children were dirty, distressed, held for days and weeks without any access to soap, showers, toothbrushes, clean clothing, adequate nutrition, or adequate sleep. Over the past year, at least 7 children are known to have died in federal immigration custody or shortly after being released. These tragedies occurred after nearly a decade of no reported child deaths. Every day, children are ripped apart from their family members at our borders and detained without access to family members. These separations leave young children isolated for days, weeks, and months without their parents, grandparents, aunts, siblings, or other family carers. And the lawyer's testimony to Congress included some searing quotations from the children themselves, which described their deteriorating, spiraling mental health issues. A typical excerpt: I started taking care of a 5-year-old girl after they separated her from her father. I didn't know either of them before that. She was terribly upset, and the workers in the shelter did nothing to try to comfort her. I tried to comfort her, and she's been attached to me ever since. This 5-year-old girl sleeps on a mat with me on the concrete floor. We spend all day, every day in this room. There are no activities, only crying. So government policies, and there are many others, are having a severely deleterious impact on migrant child health. It is not just policies in the US. It is also this externalization policy that I just want to briefly mention, because externalization is a huge health threat, both in the United States, but also in Europe. Migrant children, migrant families are increasingly pushed outside rich countries like the US or rich areas like Europe onto neighboring countries or regions ill-equipped to provide for them. And so they're returned to situations of acute danger and risk. We see this in the kind of northern, in the US context, with the return to Mexico. And again, there is a lot to be said about the policies. But the current situation is that about 50,000 asylum seekers have now been pushed back into Mexico, into a kind of no man's land, which is not properly governed by the state, a place where there are kidnappings, shootings, and brutal violence. And it is in these places that children, including unaccompanied children, are forced to stay. So what I want to really note here is that we have a Convention on the Rights of the Child. We're celebrating 30 years of dramatic progress in many areas related to children's health. Dramatic decreases in infant and child mortality and morbidity, dramatic increase in access to primary and secondary schooling, dramatic increases in many other aspects of children's enjoyment of rights. And yet, we're facing an emergency with hundreds of thousands of migrant children in the US, in the Americas, but also, I would say, and I'm sure this will come up later, in the European context, in the Mediterranean, in Libya, in sub-Saharan Africa. So what we need to do, I think, is to apply the lessons that Janusz Korczak taught us all those years ago in such grave circumstances, facing extermination, about the importance of attending to the best interests of the child, the importance of privileging the child's voice, and the central importance of the rights that now are included in the Convention on the Rights of the Child. It seems to me, unconscionable that children should be daily exposed to trauma, to family separation, to deprivation of basic rights to sanitation and cleanliness, just because, as was mentioned earlier, they lack citizenship or they lack the status of being our children. And so I think, to conclude, I would say that Janusz Korczak, who sacrificed his life to stand by Jewish orphans targeted by Nazi racism, might well be wondering now what 30 years of comprehensive ratification of the CRC is yielding for some of the very poorest children seeking protection in some of our richest countries. Thank you very much.
Un grand merci, professeur Baba, pour votre présentation. Nous allons entendre maintenant le docteur Xavier Emmanuelli.
Merci de cette présentation qui est vraiment très touchante. Je vous remercie de m'avoir invité, la Fondation, monsieur le recteur, la ville, de m'avoir invité à faire à cette tribune pour parler des enfants. Des enfants migrants, des enfants des rues, des enfants migrants, des enfants et des mineurs non accompagnés. Madame Baba, je vous remercie d'avoir évoqué Janusz Korczak. C'est de là que tout est parti, de cet homme qui était, à travers les causeries du vieux docteur, comme moi, qui essayait d'alerter l'opinion en Pologne sur le statut des enfants. À l'époque, il y avait des enfants des rues en Pologne, et ça a été l'ancêtre de tout ce qu'on a pu découvrir sur les enfants. Janusz Korczak a été jusqu'à se sacrifier dans le ghetto de Varsovie en 1942. Il avait créé un orphelinat très particulier, vous l'avez dit, avec le Parlement des enfants. Il pensait qu'un enfant pouvait prendre des responsabilités. Il y a un poème du XVIIe siècle de Woolworth qui dit « L'enfant est le père de l'homme ». Et c'est vrai. Ce qui se passe dans l'enfance se répercutera toute la vie. Quel genre de barbare on va faire si on traite les enfants comme ça? J'appuie sur le verre. Chacun connaît cette histoire du petit Eylan Kurdi en 2015. Vous le voyez, il est échoué comme une épave sur une plage de Turquie. Évidemment, ça a ému le monde entier quand on voit un petit enfant de 3 ans comme ça, et la barque a chaviré. Son père a tout fait pour le retenir, mais il a coulé et on a trouvé cet enfant échoué sur la plage. Le monde entier a été révolté, c'est vrai. Et il y a une vague d'émotions. Et on aurait pu faire quelque chose à ce moment-là en Europe, puisque porté par une opinion très sensible, extrêmement heurté par cette image, on aurait pu faire quelque chose de global sur les migrants. D'ailleurs, je voudrais dire que le mot migrant, qui est directement traduit de l'anglais, en fait, ce n'est pas un bon mot. C'est quand on disait les émigrants, les immigrants, les déplacés, les exilés. Mais migrant, c'est une totalité, puis ça permet d'être chargé de peur. Et il y a beaucoup de politiques qui disent « je vais vous protéger des migrants ». Migrant, c'est le grand autre, c'est l'altérité, c'est quelque chose de dangereux qui va venir casser nos sociétés, notre mode de vie. Donc on est bien obligé de l'employer, parce que c'est le mot des médias. Mais rappelez-vous, c'est un mot chargé de peur, c'est le mot du rejet de l'autre, ce que vous venez de raconter, madame Baba. Petite définition que vous avez donnée sur l'enfant, qui est jusqu'à 18 ans, moi je dirais le petit enfant, on l'appelle infance, C'est un enfant qui n'a pas la parole, qui ne sait pas encore parler. Quel accueil on fait dans ce grand bouleversement, dans cette grande crise mondiale qui fait que les gens sont obligés de migrer, de sortir, de s'exiler. Voilà ce que disait le grand Janusz Korczak. Il dit, l'humanité doit donner à l'enfant tout ce qu'elle a de meilleur. Une autre image, vous voyez les murs, les barbelés qui séparent les pays, tous les pays, pas seulement les pays européens. Le phénomène de l'exil, le phénomène des migrations, ce qui se passe en Afrique, c'est 10 fois ce que nous constatons en Europe, qui va, alors là, pour le coup, bouleverser la redistribution des frontières, la redistribution des populations. Je vais vous donner le vocabulaire, on peut les appeler des clandestins, comme vous voyez, illégaux, réfugiés, migrants, déplacés. Et je crois qu'il ne faut pas trop faire de différence, parce qu'après, on vous fera la différence entre les réfugiés politiques et les réfugiés économiques, comme si ça voulait dire quelque chose, les sans-papiers. Et puis, les deux catégories qui nous intéressent ce soir, c'est les mineurs isolés étrangers. Et les enfants seuls, mais aussi les enfants qui sont accompagnés, pas forcément par leurs parents. Une image, vous voyez, c'est les murs. Les murs, les barbelés, on se réfugie derrière des murs. Et où voulez-vous qu'ils aillent? Les pays qui se développent commencent par faire des mégapoles, des grandes villes. Mais ils n'ont pas leur place, ils n'ont plus leur place à la campagne, ils n'ont pas la place dans la ville. Où voulez-vous que les enfants et les migrants aillent? Et donc sont obligés de bouger, obligés pour la survie de se déplacer. Et vous voyez ce qu'on trouve? On trouve des murs, des barbelés. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, les enfants qui essayent sous les barbelés, accompagnés ou non de leurs parents. Voilà l'état du monde dans cette crise extraordinaire qui dure et qui va durer plus d'une génération. On l'a dit, les chiffres sont parlants. 143 millions de réfugiés climatiques à terme. Le monde va changer parce que les climats vont changer. Les villes côtières, petit à petit, vont changer. Si on ne sait pas accueillir les gens qui viennent de loin, comment on va faire quand ça va être leurs propres citoyens? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une crise grave, profonde, sur laquelle... Et je crois qu'on n'a pas encore les concepts, on n'a pas encore bien pensé ce que ça voulait dire, ce grand chamboulement. Quelles sont la place des enfants? Mais comme vous voyez, on fait la différence entre les enfants et les jeunes. 14% des petits-enfants, ça représente l'immigration, et 11%, bon, ces chiffres veulent dire l'importance que ça a par rapport au phénomène de migration d'enfants et de jeunes non accompagnés. Tout à l'heure, on donnait des définitions de l'enfant juridique, l'âge de 18 ans. Ça commence à 4 ans, dès qu'ils peuvent être autonomes, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Des adolescents qui sont paumés, qui traînent et qui n'ont que d'autres, qui traînent dans les villes et dans les quartiers, ils ont comme seule possibilité de fuir, de s'en aller, et dans quelles conditions. Je voulais dire qu'il y a des, même en France, votre pays voisin, 208 enfants sont, l'année dernière, étaient dans des centres de rétention, et pourtant, Dieu sait que le droit est garanti dans nos pays. Je voulais vous dire que nos institutions, quelles qu'elles soient, et nos politiques n'ont pas compris cette grande crise qui va de redistribution des populations. Ce n'est pas les pauvres qui migrent, ce n'est pas évidemment les très riches, c'est une classe moyenne, souvent éduquée, et qui se met en route. Ils se mettent en route pour trouver de l'emploi, de la sécurité. S'ils s'en vont, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de partir. Vous voyez, heureusement qu'il y a des réfractaires à nos populations, à nos institutions. Regardez ce qui se passe en Méditerranée. Sachez qu'en Méditerranée, depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant, 30 000 personnes, vous entendez, 30 000 personnes se sont noyées. Ce n'est pas un scénario, ce n'est pas de la littérature. La Méditerranée est un grand cimetière de migrants. Et c'est des gens qui ont une aventure terrible, passant par la Libye. Même l'Afrique de l'Ouest passe par la Libye, où il y a des véritables camps de concentration, où les gens sont esclaves, souvent exploités, exploitation par le travail, exploitation sexuelle, et pire encore. Quand les enfants arrivent dans nos pays, on essaye de voir qui ils sont. Et pour les médecins qui sont dans cette salle, on fait le test osseux, le cartilage, vous savez, et on montre la maturité osseuse. Et bien entendu, ça n'a pas une valeur 100%, mais ça permet de catégoriser. Si vous êtes encore dans la catégorie où vos os ne sont pas formés, vous risquez d'être un enfant. Si vos cartilages commencent à s'ossifier, alors vous êtes un adulte. Et donc, c'est une espèce de discrimination. Comment on va vous traiter ? Comme un enfant ou comme un adulte ? Je vais vous dire la situation sanitaire des enfants. Mais je ne vais pas faire une nomenclature. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le premier, c'est la psychiatrie. La psychiatrie, c'est le PTSD, post-traumatic syndrome. Les enfants qui ont traversé, qui ont été bouleversés par la séparation d'avec les parents, par le long voyage, par la cohabitation avec des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés, ils arrivent à avoir le syndrome post-traumatique. Syndrome post-traumatique qui les chamboule. Et je crois que si on ne les soigne pas, il y en a pour la vie. Mais on sait soigner le PTSD. Qui va les soigner ? Alors, bien entendu, je peux vous dire les maladies infectieuses, les syndromes méningés, les ictères, les diarrhées, les parasitoses. Et tous les traumatismes qu'on rencontre. Voilà ce que montre la santé des enfants. Mais ce que je vais vous dire, j'arrive pas à suivre parce que je suis obligé de me retourner. Juste deux minutes pour vous montrer. Vous connaissez tous les campements autour de Paris, des campements illégaux qui de temps en temps sont évacués brutalement par la police. Je voulais vous dire, c'est pour ce qui concerne les enfants, je vais être médecin, je vais vous dire que chacun d'entre nous a quatre fondamentaux. La connaissance du corps, connaissance du temps, connaissance du code, des codes des autres et le territoire. Le corps, mais quand il n'est pas sollicité, quand les enfants n'ont pas été touchés, embrassés, caressés, qui n'existent pas dans les yeux des autres, eh bien, ils n'arrivent pas à avoir la perception complète de leur corps. Les grands clochards qu'on rencontrait dans Paris, c'est des enfants incomplets qui avaient été violés, pas regardés, battus, et ils ne savaient pas les limites de leur corps. Et donc, quand on dit qu'ils pouvaient être prostitués, ils ne savaient pas ce qu'était leur corps. Prostitution innocente. Et le corps, c'est important pour se situer. Et les grands clochards ne connaissent pas les limites de leur corps, les hommes incomplets. Le temps, mais dans le monde de l'enfant, il n'y a pas... J'en suis encore là, zut. Il n'y a pas de temps qui passe, bien sûr. Ils sont dans un éternel présent. On ne peut pas faire de projet pour le futur. Ils sont là. Ils sont là avec quand même une caractéristique. Les enfants jouent. C'est-à-dire que au milieu du drame, les enfants sont dans un moment sans limite, un moment de perpétuel présent, et ils s'en sortent au bout d'un moment parce que dans le fond, ils ne savent pas ce que sont les autres, ce que c'est que la vie. Ils ne savent pas forcément ce que c'est que le tragique de la vie, et d'une certaine façon, ils sont naufragés. Mais évidemment, et s'habitue pour survivre. Et ce qu'on a inventé comme mot, c'est la suradaptation paradoxale. Plus vous êtes dans une situation d'errance, plus vous adaptez à l'errance. Et plus vous adaptez, moins vous êtes adaptable. Et ces enfants qui sont dans l'éternelle errance, c'est extrêmement difficile de les récupérer. Non seulement il y a le syndrome post-traumatique, j'aurais dû en dire quelques mots, c'est vous avez un tel traumatisme que vous êtes sans cesse dans le même... Vous ruminez constamment. La vie n'est pas drôle. En fait, elle n'est ni drôle ni pas drôle. Elle est dans une indifférence. Il ne se passe rien, on est hors du temps. Le corps ne peut pas pousser, ils ne le comprennent pas. Et dans le fond, ça leur est égal. Mais qu'est-ce qu'il y a qui arrive à ce moment-là? Eh bien, il y a des drogues. Et les enfants sont extrêmement sensibles à la drogue. Et sur le chemin de l'exil, vous rencontrez toutes sortes de drogues, depuis les drogues qu'on sniffe, celles qu'on suce, celles qu'on s'injecte. Vous savez, avec le SAMU social international, on s'occupe des enfants des rues. Et j'ai souvent vu, par exemple, dans les rues du Caire, vous faites une consultation en pleine rue, puis on soulève le t-shirt du gamin et vous voyez une cicatrice, une balafre en oblique le long du flanc. Il a vendu un rein. On l'a persuadé de vendre un rein. Il ne sait pas ce que c'est à lui, mais il en dispose, puis ça peut rapporter quelque chose. De même, la sexualité, il ne sait pas ce que c'est que c'est. Dans notre jargon, on dit le sexe sans sexe. C'est-à-dire, la finalité n'est pas la libido, n'est pas le plaisir, la finalité est la domination. On domine comme l'ancienne meute. Les puissants, les caïds, dominent les petits, quels qu'ils soient, garçons ou filles. L'altérité, comment ces enfants qui sont devant les autres avec des adultes qui ne sont pas toujours bienveillants, eh bien, il y a des violences physiques, il y a des violences physiques et psychologiques. Qu'est-ce qu'on peut faire, l'immigration? Eh bien, je crois qu'il faut vraiment faire un chapitre spécifique pour les enfants. Ce n'est pas des migrants, c'est une catégorie de gens, de personnes qui ne vont pas grandir, qui vont rester à l'état infantile, prisonniers de leur PTSD, prisonniers des drogues, prisonniers des rencontres qu'ils ont faites. Je crois que la méthode, c'est de considérer que c'est une urgence. Personnellement, je suis urgentiste, alors j'ai aucun mal à le dire. C'est de s'approcher des enfants, tous les enfants, et de les mettre à l'abri, bien sûr, et de faire un diagnostic, de les accompagner. Vous avez dit quelque chose, vous dire une petite fille qui dérivait, vous êtes approché, elle ne demande pas mieux que d'avoir un adulte. Et ça peut être un piège, parce qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants veulent s'attacher. J'ose dire dans cet auditoire que les enfants ont soif d'amour. Un enfant peut grandir sans amour, bien sûr. Mais si on ne l'aime pas, il poussera, ça, il n'y a aucun problème. J'en parle en connaissance de cause. J'ai été à la mort de Ceaușescu en Roumanie. Ils appelaient ça des orphelinats. Ce n'était pas des orphelinats. Des enfants, ils avaient demandé que les femmes ne fassent pas d'enfants, ne prennent pas la pilule. Puis finalement, on les faisait quand même. On les mettait dans ces endroits. Ils n'étaient jamais appelés par leur nom, jamais touchés. On s'est élevé des veaux, on va pouvoir élever des enfants, des filles de ferme. Bon, ils étaient le cul nu, on les torchait, bien sûr. Et ces enfants sont tous devenus fous. Il faut faire attention. Voilà l'avenir. Je vous le rappelais, le mot de Woolworth, l'enfant est le père de l'homme. C'est nous qui fabriquons les futurs citoyens qui seront nos responsables. Et voilà, qu'est-ce que nous avons fait pour ces enfants? D'abord, il faut attirer l'attention. Bien sûr qu'on attire l'attention sur l'immigration. Bien sûr qu'il y a des braves gens qui prennent l'initiative. Mais je vous dis, il y en a pour au moins deux générations. Il y a ce qu'on appelait ce qu'on appelle la tectonique des peuples. Donc, avec mon équipe, on a organisé des conférences pour attirer l'attention à Paris, à Rome, à Beyrouth, à Athènes, à Tunis, pour le retour. C'est très difficile. Qu'est-ce qu'on est loin de se les représenter ? Quand je vous ai dit 30 000 morts en Méditerranée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas un scénario. Quand vous rencontrez pour une fois ces gens perdus, ces enfants qui rôdent, vous êtes vous-même dépassé par l'immensité de la tâche. Qu'est-ce que je peux faire ? Je voudrais qu'à travers le monde, on se dise, il y a un gros problème. Non seulement les gens bougent, on dit oui, mais c'est une menace. Stephen Smith a écrit un livre qui s'appelle « La ruée vers l'Europe ». Ça n'existe pas. Les gens ne veulent pas quitter leur pays quand ça marche. Et ils ne veulent pas venir en Europe. Ils veulent rester dans leur pays. Mais donc, il faut alerter l'opinion. Les immigrants sont des êtres humains qui viennent avec des enfants, qui construisent notre avenir. Et tout ce qu'on sait faire, c'est mettre des murs, des barbelés, les repousser. Je crois que c'est une fabrique de haine. Rappelez-vous ça, une fabrique de haine. Les quelques mots que je voulais vous dire, vous remercier de votre accueil, de vous dire aussi que j'étais content avec votre présentation. J'ai traversé la vie, c'est vrai, je suis impliqué, et j'ai eu la surprise, et je voulais les remercier, de rencontrer ici, dans cette salle, des anciens de Médecins Sans Frontières, quels qu'ils soient, ça fait des années, c'est quand même mes amis, et merci de leur accueil, merci de votre accueil. Faire un peu de pub, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Accueillons les migrants ».